Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Amis sur RTF 95.4. Aujourd'hui, je reçois Cynthia Libop pour nous présenter deux livres de son maison d'édition qui sont Eva Reiss avec Londres par hasard, mais nous allons débuter par Elisabeth 5C Holding pour Au pied du mur, et c'est bien sûr aux éditions Baker Street. Bonjour Cynthia.
Bonjour.
Alors j'aimerais que vous présentiez quand même vous en tant qu'éditrice de cette formidable petite maison d'édition qui ne paraît pas mais sort de très très bons livres, parce que on va parler de ces deux-là, mais j'ai dans mon coin de mémoire Une ombre au tableau aussi de Joseph Hahn. On en parlera un petit peu à la fin si vous le voulez bien. Qui vient de sortir, voilà. Moi que je n'ai pas fini. Hein, donc, mais on peut quand même donner un petit peu la trame de l'histoire.
Très bien.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs?
Bien sûr. Je suis américaine, mais je vis en France depuis très longtemps. Et j'ai toujours en fait travaillé dans l'édition en France. J'avais fait des études littéraires aux États-Unis et en France. Donc, j'ai travaillé dans 3 ou 4 grandes maisons. Flammarion, De Noël, puis chez Chastel. Et puis j'ai créé la maison Baker Street il y a 7 ans au sein des éditions du Seuil. Et puis là, depuis 3 ou 4 ans, on s'est séparés, on est complètement indépendants. Et on fait effectivement pas mal de littérature traduite de l'anglais, soit américaine, soit anglaise. On fait aussi quelques livres en français et un mélange de fiction et de documents, mais plus de fiction, je dirais.
C'est une maison d'édition qui a un large panel, on va dire.
Oui, on a des goûts. Moi, j'ai des goûts très éclectiques. Oui. Et là, en fait, les deux livres que vous avez dont vous avez choisi de parler, les deux premiers, le 5C Holding, Au pied du mur, est en fait une réédition.
Oui.
Ça a paru d'abord aux éditions Gallimard dans la célèbre collection La Série Noire. Et l'autre n'est pas du tout une réédition, c'est une nouveauté, mais c'est ce qu'on appelle un roman vintage, parce que ça se passe dans les années 60, et ça raconte les folles années, enfin la naissance du rock, d'une certaine manière.
Voilà. Alors, on va commencer donc par le premier, donc le 5C Holding. Donc, c'est l'histoire d'une famille où les caractères sont très, très, très importants. Dans le livre, plus même que l'histoire, je dirais. C'est très psychologique. C'est peut-être même, je dirais, par rapport à la date d'écriture, c'est un des premiers romans, un premier thriller psychologique. On pourrait dire ça. Ouais.
Oui, je pense que vous avez raison. Et surtout aussi, le grand Raymond Chandler aimait à parler de cet auteur comme la marraine du genre noir. C'était une des premières pionnières du genre noir, et ce livre, effectivement, c'est plein de, comme vous dites, de suspense psychologique, plus qu'autre chose, et un peu de retournement de situation, et surtout, une chose que j'adore, vous parlez des personnages, il y a un personnage qui est censé être son bourru, en fait, c'est un maître chanteur,
oui,
et qui devient petit à petit, sous l'effet de son charme, qui devient un petit peu son protecteur. Et donc, les choses vont se glisser. Malgré tout, même avec lui à ses côtés, plutôt que contre elle, elle va avoir du mal à s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de menaces qui vont peser sur elle. Mais c'est quand même beaucoup d'imprévus comme ça.
Alors, bon, je vais dire à nos auditeurs à peu près, leur donner un petit peu quelques indications. Donc, Lucia Holly vit au bord d'un lac près de New York avec son père. Et ses deux, Monsieur Harper, hein, et ses deux enfants, David, 15 ans, et Béatrice, 17 ans. Et on est en pleine Seconde Guerre mondiale, et Tom, son mari, se bat pour la patrie et pour la liberté dans le Pacifique. Et là, sa fille, Béatrice, s'amourage d'un homme marié. C'est une elle s'amourache, oui.
Et en passé troublant, en plus.
Oui, voilà, à Ted Darby, qui lui est très, très, est quelqu'un qui a un passé trouble, comme vous venez de le dire. Et là-dessus, un jour, elle trouve dans le hangar à bateau le corps de cet homme.
La mère trouve.
Oui, la mère, pardon, Lucia, oui, tout à fait. Ouais. Lucia trouve donc le corps de l'amoureux de sa fille dans le hangar à bateau. Et là-dessus, pour la première fois, elle qui est une femme au foyer, on va dire classique, elle va se retrouver confrontée à une décision et malheureusement, elle va peut-être pas prendre la bonne.
Et surtout, chaque décision qu'elle prend va la pousser de plus en plus dans une espèce de spirale. Voilà.
C'est une spirale, c'est un peu comme, vous savez, les rêves que l'on fait quand on tombe d'une tour et qu'on peut se raccrocher à chaque fois, puis en fait, on rate le coche. Ça m'a fait un peu penser à une tour infernale.
Oui. Aussi, c'est un peu comme un engrenage. Elle met le pied dedans, et puis le bras, et puis le reste du corps. Enfin, elle ne peut pas s'en sortir.
Elle ne peut pas s'en sortir. Alors, pourquoi avoir édité ce roman, ce roman? C'est un coup de foudre personnel?
Mais j'ai trouvé effectivement que c'était assez singulier comme ambiance. D'une part, j'ai été intriguée par le fait que Raymond Chandler l'avait trouvé vraiment une des très grandes de son temps, une femme écrivain à l'époque qui avait déjà beaucoup de succès. Et puis, je dois dire que c'est un livre qui vous scotche à la page parce que beaucoup de gens m'ont dit « j'ai pas pu le lâcher », etc. Le suspense, effectivement, est psychologique. C'est moins dans les actions.
Oui.
Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, mais c'est surtout qu'on est beaucoup dans sa tête et elle se pose beaucoup de questions. Et surtout, ce qui est très beau, je crois, c'est qu'elle invente à chaque seconde et à chaque page une nouvelle idée, une nouvelle solution. On la voit vraiment en train de lutter et on est vraiment avec elle. Et la question pendant tout le livre, c'est est-ce qu'elle va s'en sortir et comment?
Et voilà, et puis bon, il y a justement le maître chanteur, on va dire.
Qui va se révéler oui. Une âme de gentleman. Finalement.
Oui, et bon, c'est quelqu'un quand même qui joue, qui tire les ficelles. Et puis, en fait, lui aussi, il se prend dans ses propres ficelles.
Oui.
Il se prend dans ses propres ficelles. Et c'est là où le livre, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, sur certains traits, a peut-être vieilli, mais sur le trait psychologique des personnages, il est tout à fait actuel.
Oui, et puis il y a une chose que beaucoup de gens ont apprécié, effectivement, c'est le portrait de Lucia, c'est un portrait de courage. Parce que, comme vous avez dit, c'est une femme au foyer classique, et plongée dans des circonstances inédites pour elle, comme j'ai dit, elle invente des solutions, elle cherche, mais surtout, elle résiste, et elle se montre plein de ressources, et plein de résistance et de courage. Et donc, je pense que c'est un petit peu un modèle et les gens l'admirent pour ça.
L'admirent. Et puis, bon, c'est quand même une période de l'histoire qui est quand même chargée, étant donné que, bon, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et comme l'absence de son mari, et puis élever deux adolescents, seuls avec son père, c'est pas du tout évident.
Oui. Donc, c'est vrai, il y a déjà un certain niveau de courage, mais elle se montre, je dirais, en plus plein d'ingéniosité, d'inventivité pour imaginer. C'est-à-dire qu'elle assume le rôle de quelqu'un qui est plongé dans un imbroglio criminel au plus haut point. Mm-hmm. Il y a des tas de gens qui doivent poursuivre, il y a des machinations, il y a des menaces, il y a des scènes presque violentes. Et ça, elle n'a absolument pas l'habitude et elle arrive à se débrouiller là-dedans et c'est assez étonnant.
C'est un peu aussi l'histoire des... au travers de Lucia, c'est aussi un peu l'histoire des femmes à l'époque où les maris étaient partis à la guerre et où elles durent absolument s'adapter à des circonstances pas évidentes pour la plupart. Et bon, dans son cas, c'est dramatique, mais il y a eu d'autres cas dramatiques dans d'autres... différemment, on va dire. Mais là, Lucia, elle est... Bon, elle a ses deux enfants, notamment David qui est jeune. Il faut qu'elle peut compter malheureusement que sur elle.
Et puis il y a une autre chose qui est assez sympa, c'est qu'il y a un mélange en elle, à la fois de dévouement. Elle ne pense qu'à sa famille, elle ne pense qu'à sauver l'honneur de son père, parce qu'en fait c'est plus ou moins son père, on comprend, qui aurait commis involontairement. L'acte, enfin,
oui,
rien n'est très clair, mais elle doit essayer de protéger ses proches. Tout le livre, elle essaie de protéger ses proches, donc elle est toute dévouée à eux, et malgré tout, par moments, elle a des espèces d'élan d'indépendance et de... elle en a marre, elle en peut plus, et elle dit, mais je vais faire ce que je veux, et parce que ses enfants, elle essaie de la contrer à tel ou tel moment, et elle dit, mais je dois le faire, j'y vais, je dois des explications à personne. C'est assez compliqué, parfois, elle les protège en leur disant pas la vérité, donc les choses ne sont pas très claires pour tout le monde, voilà.
Voilà, et puis bon, il y a aussi, on reprend les circonstances de l'époque, il y a aussi une jeune fille de bonne famille, une ouais. bonne famille, et la réputation est en jeu, et c'est ouais. c'est quand même un fil conducteur, la réputation ouais. qui peut ruiner la réputation de la jeune fille, mais également de la famille. Hein? Alors là, elle reçoit donc Nagel, qui est lui, c'est le premier qui s'inquiète pour où est passé Darby. C'est le premier qui se pose vraiment la question où il est passé, sachant où il était, où ouais. il allait. Donc déjà, il se pose des questions. Il y a le maître chanteur. C'est vrai que plus on avance, plus il y a des choses trappes, plus il y a des coups de bâton. Et la pauvre Lucia. Ben, elle implose un peu, quoi.
Elle implose, mais... oui, c'est un peu ça. Puis parce qu'elle passe son temps à essayer de cacher certaines choses à certaines et d'autres choses à d'autres, et notamment le policier, et qu'en fait, presque, elle tombe dans un piège parce qu'elle lui donne même plus d'indices qu'elle devrait. Mais globalement, elle est plutôt très maligne. Et oui. elle se protège bien, elle protège bien ses proches.
Elle protège bien ses proches, et bizarrement, elle ne se recoupe pas trop. Parce ouais. que le danger, justement, de ces mensonges, de ces cachotteries, c'est se recouper, parce qu'on ne peut plus se rappeler ce qu'on en a raconté à telle personne. Ouais. Et je trouve qu'elle s'en sort très, très bien, là, en l'occurrence.
Il y a une autre chose qui est très poignante. Donc, le titre, c'est « Au pied du mur ». Et en fait, tout le livre, c'est une espèce de course contre la montre. Parce qu'on lui demande de l'argent. On lui demande de payer pour qu'il ne révèle pas des secrets ou des photos, des lettres, je pense, qu'a écrit sa fille, des lettres qu'il considère comme compromettantes. Donc, elle est censée payer. Donc, elle cherche à vendre des biens, elle n'arrive pas. Parce que, non, elle n'arrête pas de dire, mais lundi, je vous donnerai ça. Mais mercredi, je vous donnerai ça. Et je pense que c'est une chose que beaucoup de gens vivent dans la vie pour l'argent, pour d'autres choses. C'est juste, donnez-moi un peu plus de temps, j'y arriverai, etc. Donc, vraiment, on lutte avec elle.
Oui, oui, c'est une lutte perpétuelle, on va dire, parce que la pauvre, à partir du deuxième chapitre, elle ne sait plus vraiment où elle habite. Ouais. Et donc, on s'attend toujours combien de temps elle pourra tenir, mais aussi exactement. Comment l'histoire va-t-elle se terminer. Ouais. Tellement qu'on est pris dans cette... dans cette psychologie, dans la psychologie de Lucia, parce que on est vraiment dans sa tête. C'est ça qui est bien dans ce livre aussi. On est vraiment dans sa tête.
Oui. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais il y a une très jolie nouvelle par rapport à ce livre, c'est que il a beaucoup plu à une éditrice au Point, l'édition de Poche Point.
Oui.
Et donc il va paraître de nouveau en poche à l'automne. Ils viennent de décider d'acheter les droits. Et c'est même pas exactement une collection polar, c'est une collection noire.
D'accord.
Donc, pour montrer que le côté psychologique est très très fort.
Ah oui, oui, non, mais tout à fait, c'est une bonne nouvelle pour le livre.
Il a déjà eu de très bonnes critiques partout, mais être prise en poche, c'est vraiment, je le prends concret, une très bonne nouvelle. Et puis comme ça, il va rencontrer un lectorat encore bientôt.
En fait, l'écrivaine Sanxé Holding, maintenant, on peut dire qu'elle a la quatrième vie qui va arriver. En France, je parle, hein, au niveau des éditions. Ça va être la quatrième fois, non ?
Pardon ?
Ça va être la quatrième fois que ce livre est édité.
Troisième. Oui, en poche, oui.
Oui,
exactement.
Oui, donc...
Et autre chose, je ne sais pas si on l'a dit, non, je crois pas, c'est qu'il a aussi fait l'objet deux fois d'adaptations cinématographiques.
Tout
la première
fait.
Fois, c'était Max Ophüls aux États-Unis, et donc un véritable thriller psychologique avec, je crois, John Fontaine et James Mason.
James Mason, c'est sûr, parce que j'ai vu le film.
Oui, et puis après, quelque chose, mais c'était un peu plus loin du livre, mais il y a 10 ou 15 ans, avec Tilda Swinton, Mais c'était plus la thématique du livre, mais pas exactement la même histoire, alors que le premier film, c'était vraiment l'histoire du livre. Donc on peut dire qu'elle, c'est un écrivain qui est devenu un classique et qui inspire beaucoup de monde.
Et c'est John Bennett, pas John Fontaine.
Ah pardon, oui.
J'ai eu un doute et puis j'avais une note. Donc c'est ça. Et c'est vrai que ce livre, il apporte pour moi personnellement beaucoup de réflexions. Sur l'époque, et aussi quand on lâche une corde, qu'on essaye de se rattraper, et souvent de fois on relâche la corde, on se rattrape, et c'est vrai que c'est tout le livre est axé sur cette tension. Voilà. Alors on va faire la première page musicale. Alors vous avez choisi The Train They Call the City of New Orleans,
oui,
de Arlo Guthrie.
Oui.
The Battle Hymn of the Republic.
Oui.
Alors de qui vous voulez la version de qui?
Entre qui vous me laissez choisir?
Je sais qu'il y a plusieurs versions, donc.
Une version très blues, très gospel, je dirais.
Gospel.
Celle qui chantait pas beaucoup de monde. Ouais.
D'accord. Swing Low Sweet Chariot. Alors là aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont chanté, il y a Eric Clapton en 75 de mémoire, il y a je crois même Bob Dylan qui a dû la chanter.
Eric Clapton,
voilà, et bien on va écouter ces musiques et on se retrouve tout de suite après pour continuer de parler un petit peu encore d'Elizabeth Sands et Holding avec ce très très beau roman noir au pied du mur, et c'est aux éditions Baker Street. On retrouve tout de suite Cynthia Liboff pour nous reparler de ce livre. A tout de suite.
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms and fields. Passing trains that have no name, freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone is done. Dealing card games with the old men in the club cars. Penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. The floor and the sons of Pullman porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of steel, and mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. City of New Orleans, Tennessee. Halfway home, and we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. The passengers will please refrain. This train got to disappear in railroad blues. Be gone 500 miles when the day is done.
Retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 avec notre invitée du jour, Cynthia Libov, pour nous parler des livres de sa maison d'édition. On parle actuellement d'Au pied du mur, un roman noir à ne pas louper, on va dire, aux éditions Baker Street. Et tout à l'heure, on va attaquer avec un roman contemporain, on va dire, alors qu'il se situe dans les années 60, c'est celui de Eva Rice, Londres par hasard. Et vraiment, c'est un livre qui est passionnant, mais complètement différent par rapport à Au pied du mur, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
Alors, cette famille, on est dans la famille Holly, et cette famille, on a l'impression, en fait, elle, malgré les déboires de ses affaires, garde quand même une certaine unité.
Oui.
Alors que franchement, dès le départ, je me suis dit, moi personnellement, j'ai dit, ça va complètement exploser, ça va partir dans tous les sens. Eh bien non. Alors, est-ce que c'est un fait que c'est un fait de l'époque ? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les gens n'auraient peut-être pas cette réaction.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça part dans tous les sens, mais ça revient au centre.
Voilà.
Parce que, enfin, à la fête, il y a une espèce de renversement de situation, c'est-à-dire que les enfants commencent à imaginer que la mère, comme ils la voient, un peu conspiratoriale, avec, en complice avec le maître chanteur, qui a pris son parti, qui essaie de la protéger. Et donc, ils imaginent qu'elle trafique, ils ne savent pas trop quoi, hein, qu'elle cache des choses. Ils imaginent qu'elle, en fait, file un mauvais coton. Et donc, ils essaient d'intervenir, etc. Donc, il y a un petit peu des intentions croisées et des malentendus. Mais en fait, chacun est en train d'essayer, là aussi, de lutter pour le bien de l'autre. Et donc, les malentendus, c'est une chose, mais à la base, leurs vœux et leurs espoirs, c'est quand même, effectivement, pour protéger leurs proches.
Et puis,
les enfants, leur mère, et la mère, ses enfants.
Et puis bon, la pauvre Lucia se retrouve un petit peu dans un étau entre l'inspecteur Lévy,
oui.
Entre le maître chanteur,
oui.
Entre ses enfants,
oui.
Entre son père. Elle est vraiment prise en tenaille. Elle est prise, oui. Vraiment en tenaille.
Et on a beaucoup, en fait, on n'a pas trop parlé de la narration, mais il y a,
oui.
Beaucoup de réflexions un peu dans sa tête. Et justement, on sent toutes ces considérations à gauche, à droite, elle pense à tout ça, et on est comme elle, un peu entourée, débordée, très opprimée par toutes ces choses qui convergent, en fait, toutes les forces qui convergent sur elle et vers elle.
Vous avez, alors, donc, vous avez découvert ce livre par Raymond Chandler. Et vous ne l'aviez pas lu avant d'avoir lu ce compliment ce grand auteur.
En fait, je l'ai découvert d'une manière assez traditionnelle dans mon métier, c'est-à-dire par un agent. Mais c'est un agent qui représente une petite maison d'édition anglaise que je suis, enfin dont je suis les sorties, les parutions depuis longtemps, parce que c'est une maison qui s'appelle Persephone en anglais. Et qui est spécialisé dans les rééditions. Ils ne font que, enfin, oui, ils font principalement. Moi, j'en fais de temps en temps, une ou deux par an. J'aime bien ça, j'aime bien redécouvrir les choses, mais je fais aussi des nouveautés. Et eux, ils font vraiment énormément de choses de femmes, pas uniquement, mais beaucoup, et beaucoup de choses de cette époque. Donc, comme ils sont spécialisés, ils s'y connaissent énormément, je savais qu'un livre vers cette époque, ce serait un très bon, parce qu'ils s'y connaissent énormément.
D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré depuis les héritiers de cette femme?
Non, mais ce n'est pas impossible. À l'avenir, je sais qu'il y a des petits-fils ou petits-filles. Enfin, c'est des membres de sa famille, effectivement, qui s'occupent de son... Enfin,
des droits.
De ses droits. Et si je fais d'autres livres d'elle, effectivement, j'aimerais bien rentrer en contact avec eux. En tout cas, je sais qu'ils étaient très contents de l'avoir de nouveau disponible en France.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une bonne nouvelle.
Et comme je vous ai expliqué aussi, notre traduction est quand même bien améliorée par rapport aux traductions de la série noire. Moi, j'étais très, très surprise de découvrir, en corrigeant un peu la traduction, qu'ils avaient coupé beaucoup de passages, mais j'ai appris depuis que c'était en fait une pratique assez habituelle
à l'époque,
la série
oui.
noire, pour des raisons, des contraintes d'édition, de place, de format. Tous les livres devaient rentrer dans un certain format et donc allègrement, quand il fallait, couper les passages dans la traduction. Donc là, on a vraiment la première version, la première édition intégralement.
Mais ce que vous me dites, j'ai eu le cas sur un livre de John Dixon Carr que j'avais lu dans une des premières éditions, on va dire françaises, et qui était chez Le Masque d'ailleurs, et réédité par Le Masque dans les années 80-90, et ça n'avait rien à voir.
Ouais.
Ça n'avait rien à voir, effectivement, il y avait des pans entiers qui avaient disparu. Et je crois que le livre, c'était Hier vous tuerez. Excellent livre, d'ailleurs. Dans l'avenir, est-ce que vous allez rééditer, justement, on y vient, vous en avez parlé, d'autres livres d'Elisabeth Samsey-Hollin?
En fait, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, d'en rééditer d'autres qui ont déjà été faits, soit d'essayer de faire des inédits. Le problème étant que, souvent, s'ils n'ont pas été réédités à l'époque, c'est qu'ils étaient moins bons. Donc, il faut que je jongle entre l'envie de faire quelque chose d'inédit, une nouveauté, c'est toujours excitant, et l'envie de prendre ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est à l'étude.
C'est à l'étude. Dans votre maison d'édition, vous faites un peu tout?
Oui, beaucoup de choses différentes.
Beaucoup de
traductions, comme je vous l'ai dit.
Oui, par contre, vous n'êtes pas toute seule quand même pour tout faire.
Pardon?
Vous n'êtes pas toute seule pour tout faire quand même.
Non, il y a une autre personne qui travaille avec moi dans la maison quotidiennement. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de collaborateurs à l'extérieur, freelance, comme la superbe Virginie Julien, que vous connaissez.
Tout à fait.
Qui est attachée de presse pour ce livre, et pour Everest aussi, qui est très dynamique. Et donc, on a pas mal de collaborateurs extérieurs qui nous aident énormément.
D'accord, c'est.
Ça vous donne une certaine souplesse, en fait.
Voilà, ça vous donne une certaine souplesse parce que vous ne pouvez pas tout faire, lire, traduire,
ouais.
Avoir votre rôle d'éditrice. Vous devez avoir des journées quand même très longues.
Oui, des nuits aussi très longues. Mais c'est quand même c'est un métier passionnant et surtout un des plaisirs de ce métier, c'est les auteurs, parce que les auteurs sont presque toujours... Enfin, je suis rarement déçue quand je rencontre un de mes auteurs. Je dis rarement, oh, le livre était mieux. En personne, ils sont toujours extraordinaires. Enfin, moi, je trouve.
Oui, tout à fait.
À la hauteur, enfin, pour moi, presque toujours à la hauteur de leur livre.
Oui, tout à fait. On a parlé de personnages. Il y en a un qu'on a. On a parlé du lieutenant, de l'inspecteur Lévy, donc de la police du comté. Mais on a oublié aussi un personnage quand même qui est très important. C'est Owen Lloyd, le fils des riches voisins, qui est le nouveau petit ami de Bee. Ouais. Et lui, il est important aussi, Owen Lloyd.
Enfin, il est très conventionnel, il est très establishment. Et c'est là où on se rend compte, en fait, de l'originalité de notre héroïne, Lucien, qui pouvait paraître comme quelqu'un aussi de très classique, mais face à lui, elle aime bien, mais d'un autre côté, elle est un petit peu inquiète parce qu'elle le trouve très convenu, quelque part, et un peu intéressé. Il essaie de l'impressionner, de lui montrer qu'il fait de grandes études, qu'il va gagner beaucoup d'argent. Et quelque part, elle, c'est vraiment un esprit libre et quelqu'un qui, je sais pas, qui a une très belle âme et qui est un petit peu en dehors de ses considérations.
Alors, et aussi, ce que l'on pourrait dire, c'est que on a l'impression, c'est amusant, c'est un parallèle que j'ai fait, je pense que c'est tout à fait personnel à mon jugement, mais on a l'impression qu'il y a des que ce sont pas des personnages réels qui sont autour, qui justement qui font lâcher chaque fois prise Lucia, mais que ce sont carrément des fantômes. Mm-hmm. Alors que ce ne sont pas des fantômes.
Des principes un peu.
Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le charme de ce livre. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont toujours cachés derrière un voile. C'est pour ça que je dis que ça me fait, donne un peu la vie que ce sont des fantômes. Alors que oui, ce sont des fantômes réels. Mais il y a un voile. Et le voile s'épaissit. Et le voile, à un moment donné, il diminue, il se réépaissit. Il y a un jeu, je pense. Il y a un jeu de... j'allais pas dire de couleurs, mais oui, on peut dire aussi un jeu de couleurs. Vous voyez ce que je veux dire ça, au niveau des...
Autre chose, on n'a pas parlé d'un autre personnage superbe. C'est la femme qui s'occupe de tout, qui l'aide et qui est la domestique, si vous voulez, qui oui. est une femme de couleur et qui est devenue une amie, une confidente, et qui va l'aider énormément et à d'autres reprises vraiment la sortir.
Oui, c'est vrai.
Des très mauvais pas.
C'est vrai, oui, parce que bon, c'est sûr que bon, il y a tous les. En fait, il n'y a pas de personnage
inutile
et principal. En fait, ils sont tous des personnages principaux. Tout le monde est un personnage principal dans cette histoire. Ouais. Parce que si on enlève un personnage, il y a le château de cartes qui s'effondre.
Ouais.
Et c'est vrai que tout le monde. Et c'est vrai qu'on on a oublié de parler de la bonne de Lucia.
Et de leur très belle amitié. Parce que
oui.
C'est plus qu'une domestique, c'est vraiment son. Non seulement son ami, mais c'est quelqu'un, c'est un petit peu son ange gardien dans le livre.
Ah, c'est plus qu'un ange gardien, parce que bon, c'est vrai, comme vous avez dit, deux, trois fois, elle lui sauve vraiment la mise. Parce que, et c'est vrai que c'est amusant, on dirait, ça vous devez connaître, aux États-Unis, vous savez, les montagnes où les parois sont abruptes, et si on se retrouve au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des fois, elle est au bord de l'abîme, elle va tomber, non, elle est encore repêchée. Elle fait trois par un, paf, encore en marche arrière, presque. C'est comme si elle était entourée sur une île entourée d'eau, une île vraiment féroce et cruelle, et qu'elle ne puisse pas s'en évader. Et en plus, on le sent très très fort dans l'esprit, dans ce qu'elle pense, et ça c'est le point vraiment très très fort du livre, c'est cette recherche et cette dimension psychologique de ce livre, et surtout pour un livre de l'époque, je pense.
En fait, psychologique et sociale, parce oui. que comme vous dites, et d'ailleurs beaucoup de critiques l'ont relevé, c'est un livre aussi qui nous donne un vrai tableau de l'époque, non seulement politique, mais social, avec les voisins, etc., ce qu'on attendait, ce que les gens vont penser, etc. Et en même temps, à côté de ça, une très forte conscience sociale et de la communauté, il y a aussi un esprit très individualiste et qui ne pense que pour elle. Donc il y a les deux. Il y a l'individu, mais dans sa société, les deux sont très très forts.
Et puis dans un livre écrit à cette époque-là, c'est quand même très, très libre, alors que c'était une période, la Seconde Guerre mondiale, et après, avec le, c'était des périodes quand même qui, au niveau des libertés, étaient quand même très, très surveillées, on va dire. Ouais. Et là, en fait, elle est libre dans sa tête, malgré tout ce qui se passe autour d'elle.
Elle est libre dans sa tête, et je pense aussi que c'est peut-être un petit peu un portrait, comme vous disiez tout à l'heure, de la guerre, des femmes en temps de guerre, et qui se doivent se hisser à la hauteur des circonstances, parce que les circonstances exigent d'elles, et qui montrent effectivement tout leur caractère, leur force de caractère, et elle ici dans des circonstances un peu criminelles. Mais les autres dans des circonstances bon, de guerre ou d'autres demandes de la société. Et donc, c'est des tests de caractère et de ressources intérieures, de force.
Oui, force intérieure. Et quel est le personnage qui, personnellement, à part Lucia, bien entendu, qui vous a le plus marqué dans ce livre?
Ah, mais c'est facile pour moi, c'est Donnelly. C'est le maître chanteur, je l'adore parce qu'il... Il change au cours de la chose. Il commence par être un maître chanteur conventionnel. Cela dit, quand il raconte un peu son passé, on voit qu'il a jamais été tellement classique. Il a toujours fait un tas de trucs bizarres. Il est parti à la mer, etc. Mais devant elle, il commence par la menacer et tout d'un coup, il devient doux comme un agneau. Il y a deux ou trois scènes qui sont presque surréalistes, à vrai dire.
Oui.
Où ils déjeunent ensemble au restaurant. Ou par la suite, ils vont envoyer, c'est un temps de rationnement, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas des œufs, ils n'ont pas de beurre. Il va envoyer, mais un jambon entier, sous secret, il ne dit pas d'où ça vient. Et c'est justement la bonne noire qui va la réceptionner, qui va cacher les choses et tout ça. Mais il est toujours en train de faire des grands gestes en grand seigneur. Et en fait, quelques critiques ont dit, il tombe sous son charme ou il devient amoureux d'elle. Mais en fait, c'est plus fort que ça. C'est qu'il est subjugué par, je pense, ce qu'elle représente, sa force de caractère, le fait qu'elle se bat. Il est en admiration devant elle, en fait, d'une certaine manière.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Et bien, c'est pas aussi simple que le charme. C'est le charme aussi, mais c'est une fascination, mais c'est aussi une admiration.
Tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec votre analyse. Alors, on va faire une deuxième page musicale et on va laisser un peu Lucia et le livre au pied du mur de côté pour, après la page musicale, aller dans la période contemporaine, même si elle commence à dater maintenant. Ce sont les années 60 et c'est Londres par hasard d'Eva Rice, bien entendu toujours aux éditions Baker Street. On se retrouve tout de suite après, mais on va écouter donc Stand By Me, Mack the Knife et The William Tell, l'ouverture. Voilà, à tout de suite.
Stand by me,
darling.
tumble and fall to moon.
And the mountains
should crumble to the sea. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh yeah, stand by me. Stand by me.
Back the knife. Shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie's back in town.
Take it, Satch.
Satch.
De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 avec notre invitée, c'est Cynthia Liboff qui est l'éditrice et donc des éditions Baker Street. Et on va parler cette fois-ci d'Eva Rice, un très beau livre contemporain qui se situe, comme je le disais précédemment, dans les années 60. C'est l'histoire d'une famille nombreuse, mais aussi de deux filles, deux sœurs, Tara et Lucie. Alors, Cynthia, ce livre, vous l'avez découvert comment ?
Mais en fait, j'avais déjà publié son livre précédent aux éditions Flammarion, que j'avais adoré.
D'accord.
Et qui s'appelait un peu autrement en anglais, qu'on a appelé L'amour comme par hasard. Et donc, qu'on en a trouvé ce titre, Londres par hasard, c'était un peu pour faire un clin d'œil à l'autre qui est apparu il y a déjà 7 ans, et qui a eu du succès, et qui est apparu en poche. Et celui-ci aussi va apparaître en poche. Et ça reprend quelques-uns des personnages, pas beaucoup, ce n'est pas vraiment une suite, et les deux se disent complètement indépendamment. Mais les deux partagent quelques traits que j'adore, beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit. Les deux sont ce qu'on appelle des romans vintage. Le précédent parlait de la musique dans les années 50, juste avant l'arrivée de Elvis. Et celui-ci, c'est donc 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard. Et c'est les années 60, avec la naissance du rock. Et on va même voir, et c'est un portrait fabuleux, un personnage qui est un des... Premièrement, le membre fondateur des Rolling Stones, Brian Jones,
oui,
qui joue un rôle très rigolo, surtout à la fin, de ce livre. Il se mêle aux personnages, et c'est un des charmes de ce livre, c'est le mélange des personnages fictifs et des vrais personnages de l'histoire.
C'est le Swinging London, on va dire. C'est le Swinging London.
Exactement.
Et donc, ce livre... Alors, moi, la question que je me posais, vous en avez parlé, c'est... Il y a Brian Jones qui apparaît dans le livre. On est très étonné. Moi, j'ai été très étonné. Alors, est-ce qu'il y a une part de réalité là ?
Est-ce que, pardon ?
Est-ce qu'il y a une part de réalité ?
De
oui,
réalité.
La réalité. Parce que c'est vrai que dans ce livre, moi, j'avoue franchement, je me suis un peu noyé à un moment donné. Je me suis noyé parce que je ne savais vraiment plus du tout. S'il y avait des choses vraies et des choses romancées. Alors c'est pour
je pense que c'est exprès, et même pour tout vous dire, moi j'ai fait pire, parce que dans le livre précédent, il y a un chanteur qui est au centre, qui est un chanteur qui s'appelle Johnny Ray, qui est l'idole des deux personnages, et j'ai lu tout le livre, et même pendant des semaines, peut-être des mois après, je pensais que ce personnage était inventé, fictif. Et en fait, il a existé, j'ai fini par comprendre que les Anglais le connaissent, moi je suis américaine, donc je ne le connaissais pas. Mais c'est, et surtout, il est vraiment oublié, alors qu'aujourd'hui, les Rolling Stones ne se sont pas oubliés. Donc, on sait un peu mieux ce qui est vrai ou pas, un peu comme j'ai dit, pas complètement. Mais je pense qu'elle fait exprès et elle aime cette espèce de magie et de même ambiguïté presque. Mais surtout, elle fait exprès pour mêler les personnages réels dans ses intrigues. Et Brian Jones va connaître, mais bien, mais même très bien, la sœur Lucie.
Oui.
Et avoir même une espèce de petit flirt avec elle, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et ça, bon, évidemment, c'est inventé. Parce que Lucie n'existe pas, mais lui, il existe. Donc, c'est un jeu.
Alors, justement, quand on met un personnage ayant réellement existé dans un roman, il n'y a pas de souci avec les ayants droit.
Ah, c'est-à-dire le fait d'utiliser Brian Jones.
Tout à fait, son image.
Ah, ça, c'est une très bonne question. Moi, j'avais envie, en fait, j'ai eu un fantasme. Je me suis dit, on devrait l'envoyer à Mick Jagger, on devrait lui demander une interview, qu'est-ce qu'il en pense de ce portrait.
Oui, tout à fait.
Je ne pense pas, parce que, en fait, en l'occurrence, c'est une très bonne question et je ne connais pas la réponse légale, juridique. Je pense que si c'était un portrait négatif ou offensant, il pourrait y avoir des problèmes. Mais comme ici, c'est un portrait...
Sympathique.
Affectueux et en admiration et assez, comment dire, pas humoristique, mais je dirais qu'elle essaie même pas d'être vraiment fidèle, parce qu'en fait, à certains égards, ça ne correspond pas à des choses qu'on sait de lui, de son caractère, mais elle le bonifie quelque part, et c'est un hommage, et je pense qu'il serait je ne vois pas trop qui, même dans sa famille, aurait envie de lui implanter un procès ou de faire une objection, alors que c'est un portrait plutôt très sympathique de Brian Jones.
C'est un portrait.
Tout ce que Mick Jagger aurait pu dire, c'est il n'était pas vraiment comme ça, il n'était pas aussi sympa ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, c'est un portrait quand même très positif.
Oui, mais vous savez, avec les ayants droit, on ne sait jamais. Hein.
C'est possible. Non,
c'est pour ça que je me posais la question. Parce que moi, je ne savais même plus ce qui était. Je vous dis franchement, vous avez eu la même chose avec Johnny Hay dans le précédent livre d'Eva Rice. Mais moi, j'avoue franchement que j'ai été subjugué là. Parce que à un moment donné, je me dis, mais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est, bon, je n'ai pas eu le temps, mais ce que je voulais faire, c'est carrément des recherches.
Oui. Donc je peux vous dire une chose, c'est qu'à la fin, il y a une scène absolument mémorable, très très drôle. Pour moi, c'est une des meilleures scènes du livre. Il y a une confrontation entre Brian Jones, qui va défendre l'architecture ancienne, enfin, c'est assez compliqué, avec un vrai personnage, Pevsner, qui a écrit des livres sur l'architecture anglaise.
Oui.
Et puis le personnage fictif qui est le mari de Lucy. Et le mari de Lucy, qui est espagnol, va piquer une crise de jalousie et l'accuser de coucher avec sa femme. Il dit, mais non, au contraire, vous ne savez pas combien elle vous aime, elle a passé une semaine chez moi à me raconter ses problèmes, etc. Et en fait, moi, j'avais lu des choses de Brian Jones et j'avais un peu l'impression que c'était tout le contraire et que dans sa vie, vraiment, à chaque fois qu'il rencontrait une fille, c'était tout de suite une coucherie. Donc, c'était là aussi, elle améliorait un peu sa réputation. Mais donc, je pense qu'on pourrait dire que ce n'est pas un portrait fidèle, mais c'est sûrement un portrait assez sympathique et drôlatique.
Tout à fait, parce que mélanger alors, les personnages ayant existé, les personnages fictifs, et ils sont. Alors là, par contre, autant dans Au pied du mur, il y a des gens quand même, ils sont sympathiques, ils sont inquiétants, ils inquiètent et tout ça. Là, c'est vraiment, faut dire que le Swinging London, les années 60, c'était l'époque. La fin, ça finit par le Flower Power, mais c'était, tout découle. Alors, on parle d'architecture, c'est très intéressant, parce que bon, l'architecture londonienne est magnifique. Hein, c'est comme à Paris, tout ce qui est haussmannien, et c'est quand même une très belle architecture. Et là, on voit, c'est la vie de deux sœurs qui parallèles, on va dire, parce qu'elles se ressemblent plus ou moins, mais plus ou moins que plus. Hein.
Mais c'est-à-dire que, d'une part, dans les deux livres, il est question de deux grands thèmes un peu obsessionnels même.
Oui.
La musique. Et l'architecture, de sauver des belles maisons. Dans le premier livre, il y a une famille qui a une très belle maison qu'ils essaient de sauver, c'est trop cher, c'est tombé en ruine, etc. Ici, ce n'est pas leur famille, c'est une autre famille, mais il y a deux maisons en fait, qu'on essaie de sauver. Mais l'histoire des sœurs, effectivement, une est chanteuse, elle va devenir chanteuse, elle est très douée, l'autre est une grande beauté, donc elles sont complémentaires mais très différentes. Elles s'aiment, elles se querellent, etc. Et puis elles vont partir. Et puis il y a une troisième. Bon, ça, je vous laisse raconter un peu l'histoire.
Mais allez-y, parce que je vois que vous êtes encore plus passionné que moi.
Bon. Mais c'est-à-dire que. Et puis autre chose, on n'a pas allé de Londres. Mais
oui.
Londres n'intervient que vers le milieu du livre. Ça commence à la campagne. C'est la campagne anglaise. Et l'auteur connaît bien parce qu'elle était elle-même à moitié élevée, qui est en Cornouailles, et donc campagne sauvage. Très jolie, plein de pluie, la moitié du temps, il y a des orages, etc. Il y a des histoires de chevaux, une très belle maison avec la châtelaine, enfin la propriétaire qui adore monter à cheval. Et puis, les deux sœurs vont rencontrer une troisième fille, qui va devenir une très grande amie, et toute l'intrigue va jouer autour de leur relation à trois, d'une certaine manière.
D'accord. Et donc, ce livre, donc, vous l'avez découvert parce que vous étiez chez Flammarion.
Et comment est-ce que j'ai découvert tout au début? Je ne sais pas trop. Mais je dois vous dire une chose, c'est que l'auteur elle-même, elle est d'une part très sympathique, ressemble aux livres. Les livres sont très... je dirais le meilleur mot, c'est un charmant, délicieux, il y a beaucoup d'esprit.
Voilà. Il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour.
Beaucoup d'humour, beaucoup de répliques qui fusent. On pense vraiment bien que ça ferait un super film. beaucoup de psychologie, beaucoup de finesse dans les sentiments, les personnages. Tout le monde est complexe, il n'y a rien de trop simple, de trop facile. Tout le monde a des états d'âme. Même, bon, par exemple, la jeune Tara, qui est notre héroïne,
oui.
qui est très douée, qui a une très jolie voix, et son amie va essayer de la chercher. Son amie Mathilde, son amie d'enfance,
oui.
de Cornwall, va devenir par la suite, après une brouille terrible avec sa sœur, Lucie, autour du même homme que Lucie va épouser. Donc, 2 ans après, cette fille va épouser un Américain, un producteur. Elle-même est devenue célèbre, un mannequin, un peu comme Twiggy, je pense, à l'époque.
Twiggy, oui, tout à fait.
Très grande mannequin. Et elle présente Tara à ce producteur de musique qui va proposer aux deux sœurs de venir à Londres et il va essayer de faire de Tara une star. Et elle a un premier flirt, c'est pas l'homme de sa vie. L'homme de sa vie, c'est un autre personnage absolument charmant et irrésistible, c'est Inigo, qu'on avait déjà rencontré dans le premier livre. Mais ici, c'est un photographe qui apparemment est basé sur David Bailey, qui était vraiment un grand photographe à l'époque. Et même lui, qui est censé être un personnage un petit peu désinvolte, de type à la mode, même lui, il est attachant, il est complexe, il n'est pas tout simple. Et ils ont une très jolie petite histoire. On sait que c'est une petite, mais c'est très joli. Donc tout ce qu'elle, tous les petits portraits qu'elle brosse, il n'y a rien qui soit superflu.
Alors, tout à fait, mais en plus, tout est axé. Alors, on a parlé de l'architecture, la musique, la mode. C'est vraiment un très beau portrait de cette époque-là, j'ai trouvé. Et tendre, tendre. Voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était. Il y a beaucoup de tendresse dans ce livre. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse. Bon, il y a. C'est un très beau.
C'est vrai, de l'indulgence pour chacun des personnages,
ouais.
et de leur faiblesse et de leur petit travers, c'est vrai.
Et c'est vrai que c'est une ambiance très, très britannique. Et ça, moi j'ai trouvé ça, ça donne encore plus de charme à ce livre. C'est vraiment une ambiance très, très. So British.
Très British, ah, c'est vrai.
Et voilà, et tous les protagonistes de l'histoire sont tous très très bien construits, ancrés dans la réalité. J'ai trouvé ça vraiment, c'est vraiment un livre très beau, très beau.
Ouais.
Mais la beauté profonde, la beauté, ouais. l'insouciance aussi des années 60 qui est très ouais. bien décrite.
En fait, ça paraît. En plus, la couverture est assez
voilà,
jeune, etc. Mais ça paraît un peu jamais facile, mais ça paraît léger. Et ça ne l'est pas parce qu'en dessous, chacun est aux prises avec des tas de pas des tourmentes, mais des complications, des contradictions, des caractères complexes. Et je trouve que c'est une très bonne elle comprend très bien, je dirais, l'âme humaine et les complexités du cœur. Mais c'est jamais lourd, enfin, c'est pas tortueux, c'est plutôt marrant. Mais on voit les allers-retours, les malentendus, les quiproquos, les imbroglios. Enfin, et c'est beaucoup d'histoires à la fois, des histoires de cœur, mais aussi des histoires de famille.
Et
il y a plein d'histoires de famille.
Tout à fait. Et il y a aussi beaucoup de... Comment on pourrait appeler ça comment dire les situations et sont vraiment très, 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 très bien décrites et vraiment avec très grande précision.
Oui. Et puis assez comique, il y a un magnifique déjeuner, nos dîners, je crois, chez Claridge, des trois filles, où... Vraiment, mais j'étais morte de rire. Celle qui est devenue la star, Mathilde, qui est un
oui.
peu un enfant gâté, qui en plus est ivre morte. Elle n'arrête pas de commander des plats, de renvoyer des plats. Les serveurs sont vraiment, ils ne savent pas quoi faire. Elle dit, garçon, s'il vous plaît. Donc elle renvoie le poisson qu'elle vient de commander. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas bon. Elle dit, oh, il est un petit peu trop... poissonneux. C'est n'importe
c'est
quoi.
C'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de situations. Excusez-moi. Il y a beaucoup de situations avec plein d'humour. Avec justement beaucoup d'humour britannique. Et ça, c'est bien retranscrit. Elle est britannique, Eva Rice, je suppose.
Très.
Elle est très britannique. Hein. Elle est
et d'ailleurs,
très fière.
Elle est née dans une famille de musiciens parce que son père. C'est Tim Rice qui est le parolier de quelques grands spectacles avec Andrew Lloyd Webber,
oui.
comme Le Roi Lion, comme Jesus Christ Superstar. Evita, des grands spectacles planétaires. Et donc, elle est née dans cette famille de musique. En plus, toute la famille, y compris son père, sont fous de cette époque, des débuts du rock, de la musique pop. Elle-même chante, et son mari est musicien aussi. Donc, elle sait de quoi elle parle.
Oui, eh ben ça, on voit ça. Eh bien, on va reparler d'Eva Rice et de ce super livre, L'ombre par hasard, aux éditions Baker Street. On se retrouve tout de suite après la page musicale avec Cynthia Liboff. Alors, on va écouter 500 Miles, Michael Roseboat Ashore et le fameux Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel. On se retrouve tout de suite après cette très belle page musicale. À tout de suite.
If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles,
100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles.
Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home,
away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away from home.
Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go back home this away,
this away, this away, this away, this away. Lord, I can't go back home. Away. If you miss the train I'm on, you will know that I am. Whistle blow 100 miles,
100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles.
You can hear the whistle blow 100 miles.
Thank you. I will drive them on. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't.
De retour dans le Café des Amis sur 95.4 RTF, dans le Café des Amis. Donc, on parlait de ce très beau livre d'Eva Rice, Londres par hasard, qui est plein de plein d'humour, plein de tendresse, qui relate très très justement cette période des années 60, le Swinging London. Et justement, ce que je disais, ce que je voudrais schématiser, ce livre se prend à l'apéritif, où ce livre est un apéritif. Et je dirais encore plus, c'est que cette époque, c'était sexe, drogue, rock'n'roll, insouciance. Mais le livre le décrit sans être péjoratif.
Ah, mais pas du tout. Surtout que c'est quelque chose qu'elle découvre. Et l'autre pendant de ce livre, et d'ailleurs, elle l'a même envoyé à pas mal journaux catholiques, etc., c'est que le début, ça se passe à la campagne. C'est une famille de 7 enfants. Et tout le début de leur enfance est complètement assombri par la mort de leur mère.
Oui.
Et donc, il y a beaucoup de tristesse au départ. Et c'est des êtres profonds. Leur père, d'ailleurs, est pasteur. Oui, pasteur dans une église. Donc, il est assez comique comme personnage. Il est en train toujours de tempêter, il a de grands sermons, mais il a beaucoup d'humour en même temps. Donc, c'est quand même une famille sage. Et puis, les deux filles partent découvrir le monde de la tentation. Et bon, elles vont tomber dans toutes les tentations. Mais en ne perdant jamais vraiment de vue leurs idéaux, leurs idées, leurs objectifs et leurs principes, quelque part.
Alors, c'est... Vous l'avez rencontré, la Rice ?
Ah oui, tout à fait. Elle est venue deux fois. Elle est exactement comme son livre. Elle est complètement délicieuse. Elle est aussi ce mélange d'insouciance. C'est-à-dire, elle est très facile comme auteur. Elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas embêtante. Je lui propose deux ou trois couves, deux ou trois titres. Elle est d'accord. Elle ne crée pas d'histoire. Voilà. Donc, elle est très sympa. Et en même temps, très intelligente. Je veux dire, c'est pas... C'est, comment vous expliquer ? Elle est absolument parfaite comme auteur. très drôle, effectivement. Comme, elle ressemble à ses livres.
Elle ressemble à ses... Ah oui, ça m'étonnerait pas, oui, vu cette... beaucoup de fraîcheur dans l'écrit, beaucoup de...
Beaucoup de fraîcheur, exactement.
Ouais, beaucoup de fraîcheur. Et donc, elle parle français ?
Elle parle français avec un bon accent, mais elle manque de vocabulaire. Ce qui fait qu'on n'a pas fait beaucoup de télé et de radio, ce qui est dommage parce qu'elle est absolument ravissante, elle a beaucoup de charme, et elle vendrait ses livres ne serait-ce qu'en disant deux mots, mais elle n'est pas très à l'aise, donc elle n'est pas encore très à l'aise en français. Peut-être que dans un an, quand on publiera Le Poche, dans un an, je pense, elle viendra, et elle aura travaillé son français, et là, ce sera différent.
Alors, c'est un gros succès, en plus, ce livre.
Elle comprend le français.
En plus, c'est un très très gros succès. Le livre.
Pardon ?
Le livre est un gros succès.
Oui, il marche bien. Et notamment à Noël, Gérard Collard, le libraire de Saint-Maur, qui est très médiatique et qui intervient à la radio, à la télé, etc., il a parlé d'elle dans trois émissions, quasiment la même semaine, juste avant Noël. Et on a eu tellement de commandes cette semaine-là qu'on a dû faire une réimpression la semaine après Noël.
Eh bien, dites donc, en fait, vous avez des auteurs qui marchent, vous.
Ah oui, mais on fait quoi ?
Non, parce que si on écoutait certains éditeurs, le livre, ça ne va pas, on va faire du livre
mais
numérique.
Le printemps était très difficile, il y avait une crise en librairie et tout le monde en souffre. Mais bon, on essaie de faire le maximum. Et puis, c'est quand même toujours moins ici, c'est-à-dire que Eva, pour son livre précédent, en Angleterre, ça s'était vendu à 220 000 exemplaires.
Ah oui.
Parce qu'elle avait fait une télé, c'était très remarqué, elle avait eu deux ou trois choses importantes, un peu fusées, et c'était devenu un best-seller. Celui-ci aussi, mais un peu moins, mais c'est quand même des scores, on n'est pas du tout près de ça en France, c'est quand même encore des petits scores, mais de bons scores.
D'accord. Et donc, ce livre lui a été inspiré par sa famille, d'après ce que vous disiez tout à l'heure.
Non, moi, je dirais ce qui m'attire vraiment, je dirais, c'est l'humour, l'esprit, le charme. Je dirais en anglais, wit, they're very witty. Mmh. C'est très fin. Et ça, j'aime beaucoup. C'est délicat. Et comme vous dites, elle a une certaine fraîcheur. Très originale, voilà. Et fantaisie. Ça, c'est le mot qu'on
appelle. La fantaisie, oui.
Très centrale.
Oui, c'est vrai. C'est la fantaisie.
Très fantaisie. C'est très... imaginatif, sympathique, marrant, inattendu, c'est plein de inattendu.
Ah, moi j'aime beaucoup, c'est dans la première partie, on dévoile et on détaille la Cornouaille avec ses mœurs, avec sa vie dans un petit village. Moi j'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé ça excellent. Et c'était un livre touristique sans être rébarbatif comme un livre touristique.
Ah, pas du tout, non. En fait, je pense qu'elle aime, elle-même, comme elle y a vécu, ils ont toujours une maison là-bas, ils y passent beaucoup de temps, et je pense qu'elle a vraiment une profonde un profond amour de la compagne aussi.
Oui.
C'est-à-dire, elle est partagée elle-même, comme ces personnages-là dans ce livre, entre vie et compagne. Et on a un peu les deux côtés, les deux avantages, les avantages de la vie en ville et de la vie à la campagne. Parce qu'il y a beaucoup de très jolies scènes de, entre les sœurs, entre les voisines. Donc, en fait, c'est très clair qu'elle trouve la vie provinciale sympa. Et, mais la vie à Londres, les sœurs sont fascinées. Tout est nouveau, tout est beau, tout est très sophistiqué, elles sont un petit peu impressionnées. Mais elles s'adaptent très bien, elles se jettent à corps perdu dans la vie londonienne.
Alors, moi, je vais faire une petite aparté amusante. Moi, Lucie me fait penser un peu à la chanson. Ça n'a rien à voir, vous allez voir. À la chanson, elle a le prénom Lucy in the Sky with Diamond des Beatles.
Ah. Oui,
elle me fait un peu penser parce qu'elle est, elle est toujours en avance, elle est belle, elle est extravagante.
Donc, elle a beaucoup de tempérament.
Voilà, et si vous voulez, Lucy in the Sky with Diamond, moi j'ai pensé à cette chanson automatiquement.
Ah, mais pourquoi pas ? Non, c'est pas faux. Et surtout, il y a vraiment un contraste entre les deux caractères. La petite Tara qui va, elle, devenir la star, mais dans leur vie, elle, avant. C'est Lucy la star, tout le monde l'admire, tous les hommes se pâment devant elle. Et Tara, c'est plutôt la petite, elle est libre, elle est indépendante, mais elle est beaucoup plus calme, mais elle est beaucoup plus un peu timide.
Chétive.
Et puis les rôles vont un peu s'inverser.
Oui, tout à fait, s'inverse même d'ailleurs, et avec cet humour. Et puis, alors, on parle d'architecture. Alors, moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est vrai que c'est rare de parler dans un roman d'architecture.
Oui. Mais même, c'est une des surprises dans le caractère de Lucie, c'est que c'est une très belle femme, et on pense que bon, comme les belles femmes, c'est peut-être son plus grand atout, mais en vérité. C'est une passionnée d'architecture et c'est ça qui va attirer cet Espagnol. Tous les deux, ils sont mordus de vieilles pierres, comme on dit. Et ils ne pensent qu'à ça, ils ne parlent que de ça. Et donc, elle étonne un peu des gens qui la rencontrent et disent, mais c'est l'âme d'un universitaire dans le corps d'une déesse.
Oui, c'est vrai parce qu'elle est décrite comme étant une très très belle femme.
Ouais.
C'est vrai. Alors, pour finir, on avait dit qu'on parlerait un peu du nombre au tableau.
Oui.
Hein? Alors, j'ai cru comprendre que c'est un livre auquel vous teniez beaucoup.
Mais c'est-à-dire qu'on vient de le sortir, donc c'est tout nouveau, mais c'est un joli... C'est une jolie plongée. Enfin, c'est deux, trois choses à la fois, parce que c'est l'histoire d'un peintre italien, à moitié italien, moitié
irlandais, oui.
Qui va découvrir dans un grenier un tableau de Modigliani, qui croit être un Modigliani. Et petit à petit, on va comprendre pourquoi c'est très suspect qu'il soit là. Et encore plus suspect, une espèce de liste d'inventeurs qu'il trouve à côté. Il va finir par comprendre que ça a quelque chose à voir avec la spoliation de l'art volé des nazis.
Tout à fait.
Et donc, ça se passe à notre époque, contrairement aux deux autres dont on vient de parler, mais c'est un petit peu une plongée dans son passé. Il essaie de comprendre ce que son père et le père d'une jeune femme qu'il rencontre aussi, qui vient le voir à propos de ce tableau, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. Et effectivement, il va découvrir tout un trafic, alors que son père était juif et que c'est la dernière chose qu'on imaginerait de sa part. Et donc, c'est une espèce de quête à travers plusieurs continents. Il y a une partie qui se passe dans une péniche, ils sont à Paris, ils sont en Allemagne, ils vont se retrouver en Italie pour revenir en Irlande. Et il y a des gens qui les poursuivent, on ne sait pas trop pourquoi. C'est une partie polar, une partie histoire d'amour, et puis avec ces thématiques de l'art volé des nazis. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Et l'écrivain est irlandais. Et c'est très joliment fait.
Alors, autant les deux autres, je les ai finis. Celui-là, je ne l'ai pas fini. Je vous en avais parlé. Mais, non, surtout pas. Surtout pas. Mais par contre, au niveau de la. Comment dire c'est, comme vous avez dit, c'est un roman contemporain avec des flashbacks. Hein, avec des flashbacks. Et c'est vrai que le personnage de Ben Contini, on parlait de personnage attachant, et c'est amusant, les trois livres dont on parle aujourd'hui, les personnages, tous les personnages sont attachants, sont vraiment attachants. Et Ben Contini est vraiment très attachant. On voit qu'il est, confronté à une quête et il va aller au bout. Et il va y aller, je suppose. Et c'est un livre où il y a des rebondissements, mais comme vous disiez, il y a une histoire d'amour qui est très belle, mais il y a aussi, on va dire, j'appellerais ça de l'espionnage.
Oui, oui, oui. En fait, c'est surtout à la base un écrivain de thrillers internationaux.
D'accord.
On l'a même comparé à John Le Carré, à Graham Greene, etc. Mais ce livre-là est un peu plus aussi psychologique, histoire d'amour, plus roman et thriller en même temps. Mais il sait construire une intrigue, c'est sûr. Il sait compliquer les choses, donner du suspense. Il y a des rebondissements à n'en plus finir. Et on a même quelques-uns d'invraisemblables. Mais on en a pour son argent. Enfin, surtout, on est un petit peu hors d'haleine à les suivre parce qu'il leur arrive tant de choses. Mais il a aussi une complexité dans ses portraits et puis une réflexion sur beaucoup de choses, sur le passé, sur les secrets. Beaucoup de réflexions sur la vérité. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Est-ce que les secrets qu'on va apprendre, est-ce qu'on voulait les savoir parce que ça crée des dégâts?
Tout à fait. Et justement, ce livre, vous l'avez découvert comment? Parce que j'aime bien savoir comment les éditeurs découvrent des livres.
Mais là aussi, d'une manière relativement classique, par un agent. Mais je savais qu'il était édité par un très très bon éditeur de polar aux États-Unis, que je connaissais personnellement parce que c'était un ami de mon père. Mon père était un Holmesien, un grand fan de Sherlock Holmes, et c'est pour cela qu'on a appelé notre maison Baker Street, parce que c'est la rue où habitait le grand détective
Sherlock Holmes. Oui, tout à fait.
Et donc je connaissais Otto Penzler, qui a le Mysterious Press aux États-Unis, et quand l'agent m'a dit, elle m'a envoyé cet auteur en me disant, il est publié en Irlande par un tel et aux États-Unis par Penzler, j'ai dit, ah, mais ça doit être bon. Et donc, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Et j'ai donc ensuite lu et pris ma décision.
Et je pense que moi, j'ai pas fini. Je pense que la décision était judicieuse et bonne. Parce que c'est vrai qu'il est sorti il y a peu de temps.
Oui, mais il a déjà très bonne critique.
Je pense que oui. C'est un livre, je pense, qui va être très, très lu sur les plages très bientôt.
Ouais, on espère.
Donc, c'est en plus, on parle de la spoliation des Juifs par les nazis, ce qui en plus, en ces temps de commémoration de la guerre 39-45, est tout à fait d'actualité.
Et l'autre chose qui est jolie, c'est que le personnage lui-même est peintre. Donc, il y a beaucoup de réflexions quand même sur la peinture et sur les nus. Lui-même, il est peint de nus, donc quand il découvre le Modigliani, c'est incroyable parce qu'il adore Modigliani, il a toujours admiré et même un peu voulu faire un peu des choses dans cette tradition. Et donc, il y a pas mal de réflexions sur la peinture, donc il y a cette espèce de texture en plus. Et même, je l'ai envoyé à pas mal de musées. À Paris, en disant que dans leur librairie, ce serait tout à fait pour le public. Je pense que ça peut intéresser un public de thriller.
Et je suis d'accord.
Un public qui aime la peinture.
Je suis d'accord. Et vous avez rencontré l'auteur?
Je l'ai rencontré une fois et je vais encore le voir cette semaine parce qu'il est à Paris pour quelque chose.
Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle pour vous.
Ouais. Il est très sympathique et très haut en couleur, en fait. Dans sa jeunesse, il a travaillé dans le cinéma et notamment même sur des films français. Il a travaillé en Irlande avec John Ford. Et en France, il a rencontré Michel Morgan sur son premier tournage.
Ah, quand même.
Pas mal de stars, en fait. Il a travaillé aussi avec Melina Mercouri, avec Joseph Losey, le réalisateur anglo-américain. Et donc, il a fait toute sa vie était plein de choses différentes, un peu comme un personnage d'un de ses romans.
Eh bien, écoutez, on va recommander déjà ces trois livres qui montrent toute l'étendue un peu de votre maison d'édition. Parce qu'on a un roman réédité qui était épuisé depuis 40 ans peut-être, à peu près, plus de 40 ans. Donc c'est Elisabeth 5C Holding avec Au pied du mur, un roman noir à ne pas louper, vraiment c'est un très très bon livre. Eva Rice avec le Swinging London, c'est Londres par hasard, qui est également un livre à ne pas manquer, qui est frais. On parlait de fraîcheur. Lui, c'est un livre très, très frais, qu'on peut lire à l'apéritif. Et c'est un apéritif en lui-même. Et Joseph Hone avec Une ombre au tableau. Alors là, c'est un roman plus contemporain qui parle d'un secret de famille, on peut dire. Hein, et ça parle de peinture et de belles peintures de Modigliani en particulier. Voilà, merci à Cynthia Liebhoff de nous avoir répondu à toutes ces questions et nous avoir parlé de ces trois livres, et j'espère parler d'autres livres de Baker Street dans le futur, parce que franchement j'en ai lu 4 ou 5 et les 4 ou 5 m'ont beaucoup plu. Voilà.
Merci beaucoup.
Et par contre, une chose que je n'ai pas dit à nos auditeurs, c'est que vous avez un site internet où on peut regarder et voir les quatrièmes couvertures et ce que vous éditez.
Oui, c'est pas exactement un site, c'est une.
C'est une page.
Est-ce que c'est un blog? Oui, c'est
un blog.
On a déjà une page Facebook, mais aussi une page Baker Street.
Voilà.
Si vous allez dans Baker Street, vous trouvez effectivement beaucoup de choses sur tous les auteurs. Nous avons aussi un superbe livre là de Robert Little, qui est un de nos best-sellers, Requiem pour une révolution, qui marche très bien en ce moment. Et tout ça, vous le trouvez sur le blog.
Donc c'est, notre page, c'est édition au pluriel, bakerstreet.wordpress.com. Voilà. Et moi, je vous remercie beaucoup en espérant vous revoir et parler de livres. En espérant, ça c'est mon côté un peu gourmand, qu'un jour vous rééditiez John Dixon Carr. Parce que là, on ne les trouve plus, c'est vraiment un grand drame, parce que c'est un auteur policier.
J'accueille tout à fait toutes vos suggestions d'édition, c'est toujours très très utile et intéressant pour nous.
Ah oui, oui, et c'est amusant, c'est un des plus grands, et actuellement il passe un petit peu à travers les gouttes, on va dire.
On va étudier ça.
On va étudier ça. Merci beaucoup. Alors, on va finir par votre programmation musicale qui est à l'image un peu de votre maison d'édition, qui est variée et puis très belle aussi. Alors, vous avez choisi Cat Stevens avec It's a Wild World,
oui.
Les Beatles avec Hey Jude, bien entendu,
oui.
Et les Monkees, ça m'a toujours fait un peu rire ce groupe, mais qui était excellent quand même, Here Comes Tomorrow.
J'adore cette chanson.
Voilà, et vous m'avez demandé si on ne pouvait pas rajouter Roberta Flack avec Killing Me Softly. Et donc on finira par celui-ci.
Ah, super, merci beaucoup.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie, et je dis à tous nos auditeurs à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice
Just remember there's a lot of bad and beware. To get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child girl.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, found her, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better.
Na 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 comes tomorrow, that's when I have to choose how I wish I could borrow someone else's shoes. Mary, oh, what a sweet girl, lips like strawberry pie. Sandra, long hair and beat girl, can't make up my mind. I see all kinds of sorrow, wish I only loved one. Look out, here comes tomorrow. Oh, how I wish tomorrow would never come. Hold it, oh, but I love them. Softly.